Pamphile le Mai, conte vrai. Le jeune acrobate. Autrefois, il y avait du poisson dans toutes les eaux, et les ruisseaux les plus humbles voyaient se jouer sous leur mousse blanche, parmi les cailloux, d'abondance et alerte goujons. À Chigan, truite ou perche chaude ne regardait guère l'appât, et se laissait enlever par amour pour le pêcheur. Aujourd'hui, les ruisseaux sont à demi desséchés à cause des défrichements, et le poisson qui s'attarde encore dans les mares formées par les échancrures de la rive ne mord qu'aux hameçons dorés et aux amorces succulentes. Il imite l'homme, son frère. Il faut s'enfoncer maintenant sous la grande forêt, dans cette région vierge des Laurentides, immense et tourmentée, comme une mer en fureur quand soufflent les vents. Dans cette région de vallées ombreuses et de crêtes scalpées, qui viennent en aval de Québec s'arrêter au grand fleuve et lui faire un rempart crénelé qui déchire la nue. On escalade les rochers, on franchit les torrents, on dort sur la dure. On est poursuivi par une légion de moustiques qui chantent, vibrantes et claires, leur monotone chanson, et se gorgent ensuite de notre sang le plus pur. Mais quel paysage merveilleux, quel air vivifiant, quelle senteur enivrante et douce, quel calme endormeur et profond. Partout, des lacs bleus comme le ciel baigne le pied des montagnes. Partout, des rivières serpentent dans les vallées. Partout, des cimes provoquent les mordants baisers de la foudre. Partout, des collines se couronnent de grands bouleaux rouges et de sapins odorants. Et dans la suprême tranquillité de la solitude, on entend le bruissement d'une feuille, le murmure d'une source, le chant d'un oiseau. Seulement, quand la tempête arrive, les torrents mugissent, les arbres tombent, les lacs écument, les flots bondissent, la nuit éclate, et le tonnerre roule de montagne en montagne avec un fracas épouvantable. Nous revenions un jour, quelques amis et moi, de l'une de ces intéressantes excursions de pêche en pays sauvage. Nous commencions à descendre le cap Tourmente. À nos pieds, l'île d'Orléans, avec ses florissantes paroisses, semblait une corbeille de fleurs bercée par les eaux. Et Québec, sur son rocher noir à quelque 25 000 de distance, luisait comme un astre nouveau dans les fauves lueurs du couchant. Toute la côte de Beaupré, qui descend des montagnes vers le fleuve par échelons merveilleusement taillés dans la forêt, la verdure et le roc, avec ses champs encadrés de clôtures grises, ses prairies et ses pièces de grain, paraissait dormir sous un voile de satin moiré, sous un voile tissé en larges carreaux bruns et verts, oranges et safrans, où les coteaux formaient des replis moelleux et les ruisseaux des fils d'argent. La vue des pâturages verts et des troupeaux beuglants réveilla dans nos gorges sèches la soif du lait, et nous nous arrêtâmes devant une maison de bonne apparence, flanquée d'une laiterie de pierre. Un vieillard à l'œil vif fumait sa pipe à la porte du côté du soleil. Il se leva, nous pria d'entrer et nous offrit le petit verre de politesse. À peine avions-nous commencé à causer d'un peu de tout, qu'un bambin joufflu se précipita sur le seuil. « Grand-père, cria-t-il, il y a des animaux dans le grain. »«
Oui, da, on va voir. »«
Excusez-moi, mes bons messieurs, » fit le vieillard. Et il s'élança dehors, sauta d'un bond une clôture de 5 perches, enjamba un large fossé, et tomba soudain après une vaillante course, au milieu des délinquants qui se délectaient du fruit défendu. « Diable de grand-père !» nous écriâmes, nous. « Quel jarret ! Quelle vigueur !» « Voulez-vous connaître son histoire ?» proposa une jeune femme en versant à chacun de nous un bon verre de lait. « De votre bouche, surtout, l'histoire ne peut manquer d'être intéressante, » répondit l'un de nous, un galant homme. La jeune femme rougit et parut belle. « Je ne raconte pas bien, » reprit-elle, « mais je ne raconte que des choses vraies. » Mes compagnons me regardèrent en souriant. Je compris et ne me fâchai point. Prenant un air dégagé, elle ajouta. J'ai décroché un prix de narration aux Ursulines, et je crois qu'avec un peu de temps et d'audace, je serais arrivée au pays de la fiction. J'avais du goût pour le mensonge. Cet aveu gentil fut accueilli par un éclat de rire. Et l'imagination se joue facilement des murailles épaisses du cloître, remarquai-je, pour la pousser à parler encore. « Oui, répondit-elle, l'imagination est une grande voyageuse. » Elle poursuivit. « Mais on est bien placé, tout de même, dans le monastère de Marie de l'Incarnation, pour évoquer les choses du passé. Il est encore tout imprégné des arômes de l'antique forêt et des vertus de ses premières religieuses. J'ai bien des fois arrêté mon regard rêveur sur le tronc dévasté du vieux frêne qui prêtait à la fondatrice célèbre son ombre et son feuillage quand elle réunissait les enfants sauvages pour leur apprendre à lire et à prier. Mais laissons dormir ces souvenirs sacrés. Je les éveillerai quand je serai seule. Je tiens à vous raconter l'histoire du vieillard qui vient de sortir, le père de mon mari. Elle date de fort loin, mais elle est toujours fraîche. Et voici le récit qu'elle nous fit, pendant que l'étrange bonhomme, après qu'il eut fait sortir les animaux des champs de blé, relevait tranquillement la clôture brisée. Un jour, des bohémiens passèrent. Ils étaient 10 de leur bande, vêtus de haillons éclatants, sales et drôles. Ils dressèrent leur tente sur la place publique en face de l'église. Le conseil municipal et le corps des marguilliers s'étaient entendus pour diviser les prix du permis. L'entente avait été d'autant plus facile que le marguillier en charge et le maire ne faisaient qu'une seule et même personne. Un farceur, qui aurait pu faire rire un tas de pierres, Alexandre Marchavec, son nom est resté dans notre mémoire, avait annoncé du haut de la tribune les exploits merveilleux promis par les saltimbanques. Pour récompense de sa réclame, il s'était contenté de 2 billets d'entrée, un pour lui-même et l'autre pour sa moitié. Il n'avait pas dit pour sa femme, afin de ne pas mentir. Il cultivait un célibat enragé. La foule l'entourait, massée près de lui. Les hommes d'abord, formant un cordon noir et large, puis les femmes, plus gaies, dans leurs robes de couleur. « Vous allez voir !» criait-il de sa grosse voix de bourdon. « Vous allez voir, pour rien, presque pour rien, pour 5 sous, pour 10 sous tout au plus, des choses incompréhensibles, comme des mystères, et tout à fait simples cependant. Il y a un escamoteur incomparable. Il serait de force à escamoter une élection malgré tous les votants, et le ciel malgré le bon Dieu. Vous serez témoin de 100 merveilles opérées par la magie. Pas la magie noire des sorciers de l'île d'Orléans, qui rend les filles amoureuses malgré elles, et les garçons au volage malgré eux. Mais la magie blanche des anciens, qui change une fève en dragée et un bouton en 30 sous. Vous payez cher quelquefois pour les tours qu'on vous fait. Là, pour rien,
vous rirez des tours qu'on jouera aux autres. Si vous avez des yeux, vous verrez. Si vous avez des oreilles, vous entendrez le plus extraordinaire des enfants modernes, le grand Victor. Le grand Victor, un petit gamin, gros comme ça, surpasse par l'hardiesse de ses bonds tous les sauts de carpe des cabrioleurs politiques. Je ne fais allusion à personne, et s'il y en a qui se sentent atteints, ils seront sans doute assez madrés pour ne pas le laisser voir. Victor s'enferme dans une boîte et joue des marches au pas de course, comme le ferait un caissier de banque. Mais quand il sort, la caisse est pleine et son gousset est vide. Ce prodige possède une voix de sirène. Quand il chante, les rossignols se taisent. Il a des couplets d'une gaieté folle. La statue de Sainte-Anne dans le portail de l'église éclaterait de rire si elle pouvait l'entendre. Il en a d'autres qui font couler les larmes à torrents. Il faut ouvrir son parapluie. Il danse sur la corde plus légèrement qu'un moineau sur la tige du blé. Ne manquez pas de venir admirer ce phénomène. Il n'est pas seul. Vous pourrez applaudir une jeune en alouse des bords de la Garonne. Son œil noir est si ardent qu'il réduit les cœurs en cendres. Jeunes gens, laissez les vôtres à la maison. Une vieille fée lit dans les mains comme dans un livre ouvert et vous révèle tout ce que vous aimez ou n'aimez pas à savoir. Tu pourras venir, chose. Tu mettras tes gants de boxe, interrompit un jeune fanfaron. Il y a aussi un joueur de trompette mandé exprès de Jéricho. Il est retenu pour le jugement dernier. Lui seul, paraît-il, serait capable de réveiller Pierrot l'Allemand quand le curé prêche sur la tempérance. Venez, messieurs et dames, et les jeunes, venez. Vous en aurez plus que pour votre argent. Le soir, poursuit l'intéressante conteuse, il y avait foule sous la tente. Le joueur de trompette s'était tenu à la porte jusqu'à la dernière minute, soufflant de toute la force de ses poumons dans son cuivre sonore. Parmi les curieux se trouvaient les piquefers, le grand-père et la mère grand, le papa et la maman, toute la parenté. Le papa, c'était Roque du Bosquet. Il s'était fait piquefer en devenant gendre. Il avait amené sa femme pour la distraire d'un long chagrin. La vie est si monotone au champ, et les âmes qui pleurent sont souvent laissées à elles-mêmes. Du Bosquet avait placé sa femme près de la grand-maman, et il s'était retiré un peu en arrière au milieu d'un groupe d'amis, afin de rire plus à son aise. Un jongleur déguisé en derviche ouvrit la séance d'une façon galante. Il sortit d'un chapeau de soie haut et vide une douzaine de bouquets parfumés qu'il offrit aux dames. Un loustique remarqua d'un ton sentencieux « Cela paraît naturel, mais ça ne l'est pas. Les couleurs viennent de vos yeux et l'odeur de votre nez. » C'était de vrais bouquets, cependant. Ensuite, il mangea de l'étoupe, cracha des flammes et déroula entre ses dents un long ruban rose. Il y eut un murmure d'approbation, surtout parmi les jeunes filles. « On dirait que c'est du feu, » reprit le même loustique. « Il nous le fait voir. C'est là qu'est la magie. Quant au ruban rose, j'en ferai une boucle pour les cheveux de mamie. » Puis, entre autres choses stupéfiantes, le prestigieux jongleur s'arma d'un couteau dont il fit reluire la lame à la lampe fumeuse. Et, d'une voix grave et légèrement tremblante, il annonça qu'il allait se couper le poignet. Il y eut un frémissement d'horreur. Il n'écouta point la terreur des femmes, et, bravement, il fit glisser le taillant du couteau sur son bras nu. Le sang coula et des cris s'élevèrent.
Calmez-vous, tendres âmes, repartit encore le connaisseur. C'est une vaine illusion. Le couteau seul est vrai. Quand le vieux jongleur eut fini ses sortilèges, deux jeunes filles se mirent à danser en secouant d'un bras gracieux des tambourines garnies de petites feuilles métalliques. Leurs pieds souples et légers, glissant en cadence, décrivaient sur les planches sonores des figures étranges, comme font sur les ondes bleues ou les sables d'or les vols d'hirondelles. Et, sous la tente encombrée petit à petit comme un écho qui s'éveille, il se fit un bruissement plaisant et mesuré. Involontairement, tous les pieds frémissaient, toutes les bouches souriaient. C'était l'irrésistible entraînement de l'exemple, la suggestion. Enfin, on annonça le petit prodige, le prince de l'air, le favori des fées. En attendant le lever du rideau, et pendant que le héros de la troupe fait l'éloge de son jeune sujet, je vais prendre mon récit de plus loin et le rendre aussi clair que possible. Balthazar Piquefer, l'ancêtre du jeune acrobate, n'était pas intraitable dans les affaires ordinaires de la vie. Il ne refusait pas de rendre un petit service, ni d'en solliciter un grand. Il se montrait reconnaissant comme tout le monde, quand la reconnaissance n'entraînait pas de sacrifice. Il fredonnait en revenant du champ si la journée avait été bonne. Il maugréait s'il était survenu un contretemps. Il allait à la messe tous les dimanches et chantait au lutrin. Mais il ne fallait pas lui parler politique, ou bien il fallait lui en parler de la façon qu'il aimait. La contradiction l'irritait. Il ne discutait pas, il tapait. Il n'y avait qu'un bon parti, le sien. Hors de là, point de salut. Il ne comprenait pas que le curé permît à Lubin du Bosquet de chanter au lutrin. Lubin appartenait au groupe des francs-parleurs. Un groupe fait de vieux qui n'avaient jamais baissé pavillon et de jeunes qui voulaient aussi mettre la main à la hampe. On y voyait germer la révolte. Lubin supportait mal l'autorité. Il devait obéir aux suggestions du grand orgueilleux biblique. Il n'était donc pas convenable qu'une voix sortie de ce groupe se mêlât de célébrer les louanges du Seigneur à l'église chaque dimanche. Il est vrai que ces louanges se chantaient en latin et que nul n'y comprenait goutte. Mais enfin, c'était le langage de l'église, et les chantres se tenaient auprès de l'autel, comme le prêtre. Piquefer faisait son possible pour couvrir la voix de son rival. Quand ils psalmodiaient ensemble, il enflait la sienne, jusqu'à lui donner le son du tonneau. Et quand l'autre chantait seul, il toussait et crachait comme un phtisique. Il avait même songé à dépouiller la chape d'or, puisque Du Bosquet s'obstinait à la porter. Ce qui le retenait, c'était la peur de passer pour battu. Les gens auraient dit, peut-être, qu'il se voyait éclipsé, lui le moins vieux, et que les notes sonnaient mal dans sa gorge. Cependant, il ne put s'empêcher un jour d'en parler au curé. Le curé se mit à rire, comme s'il se fût agi d'une chose bien amusante. Le chantre pieux se sentit déconcerté et commença à craindre pour la religion. Il temporisa, mais il changea de place. Il alla s'asseoir à gauche, dans la stalle voisine du siège curial. Comme cela, il ne chanterait plus à l'unisson avec l'impie du Bosquet, et il aurait l'air de lui donner la réplique. Or, Balthazar Piquefer avait une fille et Lubin du Bosquet un garçon. La fille de Piquefer s'appelait Blanche et elle était fort brune. Et le garçon de Du Bosquet s'appelait Roque et il avait le cœur fort tendre. Ils s'aimaient malgré la divergence d'opinion de leurs pères respectifs, et ils chantaient à l'unisson les espérances qui planaient comme des oiseaux de neige sur leur sereine jeunesse. Piquefer n'encourageait guère les avances de l'amoureux. Il ne perdait pas une occasion de vanter le mérite de tel autre jeune homme de bonne famille qui soupirait en secret. Il perdait son temps. Il suffit que vous chuchotiez à l'oreille de votre fille le nom d'un vaillant amoureux pour que l'oreille se ferme et que votre fille devienne sourde. L'amour cherche son chemin lui-même et se montre le plus récalcitrant des sujets. Quand Roque du Bosquet vint avec son père Lubin faire la grande demande, il n'était pas du tout rassuré. Il dut promettre d'élever ses fils dans les bons principes. Il ne recevrait aucune gazette à l'allure trop libre. Il voterait toujours comme le beau-père. Bref, il changerait de politique et se mettrait en tutelle. Il promit tout et ne tint rien. Sa femme lui pardonna sa ruse et le ménage fut heureux. Les années apportèrent le bien-être et les petits enfants sortaient du nid en gazouillant comme les oiseaux. L'aile maternelle les couvrait amoureusement. Le plus âgé venait d'avoir 6 ans. Un joli bambin aux cheveux d'or bouclés, à l'œil bleu, doux et fin. Le grand-père Piquefer l'adorait et le gâtait. Il l'emmenait déjà à la pêche au large dans son canot et lui apprenait à tenir une ligne. Il avait voulu lui infliger au baptême les noms de Sauveur, Balthazar, Albert, Victor. Sauveur pour qu'il fût sauvé des mauvais principes. Balthazar en souvenir de l'aïeul. Albert, Victor, ces deux noms dont l'un, suppose-t-on, par un singulier amour pour la famille royale, l'autre par respect pour l'autorité. Avec cela, l'enfant devait marcher droit et loin. Un dimanche du mois de... Je ne me souviens plus de quel mois, mais c'était en été cependant, car les arbres le long du chemin se couvraient d'une fine poussière grise. Les cigales lançaient comme des fusées leurs notes stridentes et monotones, et les ruisseaux dormaient dans leur lit de sable entre leurs bords fleuris. Madame du Bosquet avait accompagné son mari à l'église, laissant à une petite voisine la garde de ses 3 enfants. L'aîné était Albert Victor, que vous connaissez déjà, et 2 petites filles que vous ne connaîtrez jamais. Croyez-vous aux pressentiments, aux avertissements, aux songes, à toutes ces choses inexplicables qui hantent la pensée humaine à certaines heures? Moi, j'y crois. Et si je n'étais pas si pressée d'en finir, je vous en raconterais de bien bonnes. La messe allait se terminer tout à l'heure. L'officiant chantait d'une voix suppliante le Paternoster. Et tous les fidèles, l'âme au vol, s'unissaient à lui pour demander le pain quotidien. Le reste les touchait assez peu. Le pardon des offenses, surtout, paraissait une question assez embrouillée et de peu d'urgence. Quand les chantres répondirent avec ensemble « Sed liberanos a malo », Madame du Bosquet se sentit frappée au cœur. Une pensée, douloureuse comme un glaive qui fouille une blessure, l'obséda tout entière. Elle se mit à prier avec une ferveur nouvelle, et en regardant le saint tabernacle, elle s'efforça de chasser cette idée absurde qui la tenaillait comme une angoisse. Elle se dit que c'était une tentation, il fallait la mépriser. Dieu était là, sur l'autel. Il voyait sa peine et ses efforts. Il aurait pitié d'elle et ne lui tiendrait pas compte de cette distraction. Elle savait bien que rien n'arrive sans qu'il le veuille. Elle l'appelait bon, miséricordieux, juste.
Il ne permettrait pas le malheur terrible dont la pensée la désolait si fort en ce moment.
« Ite missa est », chanta le prêtre.
« Déjà, pensa-t-elle, la messe est finie. Mais je n'ai pas eu connaissance de l'Agnus Dei ni de l'Oremus, que je suis distraite. »
« Allons-nous attendre les vêpres ?» lui demanda son mari en sortant de l'église.
« Mon Dieu, non, je suis inquiète des enfants. Allons-nous-en vite. »
Il la regarda curieusement.
« Les enfants ? Avec la petite Pérusse, ils sont en sûreté. J'aurai quelqu'un à voir. »
« Fais comme tu voudras. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est de la folie, je crois bien. »
Il la regarda de nouveau. Elle était très pâle.
« Tu n'es pas très bien, chère femme. Il fallait le dire tout de suite. Allons. »
Quand ils arrivèrent, les deux petites filles jouaient avec du sable au soleil devant la porte.
« Où est votre petit frère ? » demanda anxieusement la jeune mère.
« C'est pas, fit la plus âgée, en jetant en l'air une poignée de sable qui retomba comme une poudre d'or sur ses beaux cheveux.
Madame du Bosquet se précipita dans la maison.
En même temps, la petite Pérusse entrait par la porte de derrière. Elle avait l'air consternée.
« Le petit ? » demanda de nouveau la pauvre femme.
« Je le cherche, répondit la gardienne. Il était avec les autres il n'y a pas un quart d'heure.
« Mon Dieu !» s'écria la malheureuse mère en se tordant les bras. « J'avais un pressentiment.
« Voyons, chère femme, il n'y a pas lieu de désespérer si vite, » observa du Bosquet. « Nous allons chercher. Il ne peut pas s'être perdu. »
Ils l'appelèrent en vain. En vain, ils le cherchèrent. Il n'était pas tombé dans le puits. Le puits était fermé par un couvercle solide. Le ruisseau ne le gardait point dans ses flaques peu profondes. Il n'y avait point de ravin, et la côte boisée descendait par une pente fort peu raide.
Quelques-uns dirent qu'ils avaient vu le matin voguer le long des battures un grand canot rempli d'hommes et de femmes, peut-être des sauvages.
La pauvre mère pressentit un malheur et voulut mourir. Elle souffrit des douleurs indicibles, et son existence devint un martyre. La pensée que son enfant vivait, qu'il allait grandir loin d'elle et l'oublier, la torturait comme un cauchemar maudit. Elle aurait mieux aimé qu'il fût mort, là, dans son petit lit blanc. Elle pourrait aller porter des fleurs sur sa petite tombe. Elle pourrait, dans ses longues et tristes nuits, le voir voltiger comme un ange au-dessus de sa tête alourdie.
10 années passèrent ainsi. La prière et la foi commençaient enfin à calmer de leur baume divin la blessure encore saignante. Le sourire revenait parfois sur cette bouche qui avait bu tant de larmes.
Quand les saltimbanques vinrent planter leurs tentes sur la place publique, pour amorcer les curieux de tout âge, ils se promenèrent dans le village au son de la musique, avec un singe qui faisait des grimaces à tout le monde et passait le chapeau comme un homme pour recueillir quelques pièces de cuivre. Les enfants s'attroupèrent, puis les suivirent en criant, riant et battant des mains. Pour aller voir évoluer ces bohémiens sous la tente, ils firent à leurs parents la promesse d'être sages, d'étudier, de prier, de se coucher de bonne heure, tout ce que l'on voulut, enfin. Leurs promesses furent exaucées. Les familles Piquefer et du Bosquet, au courant de ce qui se passait et pour se distraire un peu, se joignirent à tous, les jeunes et les vieux. Ils assistèrent à la représentation.
« Vous allez voir le prince de l'air, le favori des fées, » criait le héros de tout à l'heure, chargé de la réclame.
Le rideau se leva, et un bel enfant de 16 ans, blond comme un épi, svelte comme un jonc, souple comme un écureuil, se précipita sur la scène, en tournoyant comme un soleil, avec ses paillettes d'or aux épaules et aux jambes, grimpa sur le trapèze et salua la foule d'un geste gracieux. Ses longs cheveux, que retenait un cordon d'argent, se défirent tout d'un coup et retombèrent en boucles soyeuses sur ses épaules presque nues. « Pardon, mesdames, » fit-il, et sa voix suave vibra comme un fil d'acier, « pardon si je refais ma toilette devant vous. » Et, debout, sur la barre vacillante, il attacha de nouveau avec le fil étincelant sa chevelure en désordre. Une femme, assise au milieu de la salle, ne put s'empêcher de dire tout haut à ses voisins qu'elle n'avait jamais vu de si beaux cheveux. Le jeune acrobate qui avait entendu répliqua en souriant qu'ils étaient tout de même un peu nuisibles, mais qu'il les gardait ainsi en souvenir de sa mère, qui les aimait tant. Et il ajouta avec un profond soupir, « Pauvre mère, pauvre mère !» Une voix d'homme, une voix de vieillard, demanda, tremblante et forte, « Est-elle morte, votre mère ?»« Je ne le sais pas, » répondit le jeune gars. « Il y a 10 ans que j'ai été enlevé à son amour. » « Tais-toi !» gronda quelqu'un derrière le rideau. Le vieillard s'était approché de l'estrade et fixait l'acrobate d'une façon étrange, cherchant à faire revivre des traits effacés, peut-être. Tout à coup, une femme se leva, criant d'une voix déchirante où la crainte et l'espoir vibraient également fort. « Mon Dieu, si c'était mon enfant !» Mon petit Albert Victor. » Et, brisée par la violence de l'émotion, elle s'affaissa sur son siège. Le jeune acrobate sauta du trapèze et s'avança au bord de la scène. Il était pâle et agité. « Albert Victor ? » dit-il tout angoissé. « Je m'appelle Albert Victor. » Et le vieux Picfer, de plus en plus troublé. Te souviens-tu de grand-père Balthazar ? Qui m'emmenait à la pêche, dans un grand canot, ajouta l'enfant. Mon petit-fils, clama le vieillard, mon petit-fils. Et il fondit en larmes. Du Bosquet, écartant tout le monde, s'était précipité en avant, les bras tendus. Mon enfant, mon petit Albert Victor, criait-il. Il escalade la rampe, prend le gars dans ses bras, le couvre de baisers, et vient le déposer sur les genoux de sa mère, qui rit et pleure à la fois dans le délire de sa félicité. Le tumulte était grand. Tout le monde voulait voir. On montait sur les chaises et sur les bancs, on riait, on pleurait. Le directeur de la troupe imposa silence. « Nous sommes heureux, dit-il avec impudence, que notre jeune élève ait retrouvé sa famille. Il n'était pas né pour la scène. Il fera son chemin dans une carrière plus modeste et moins accidentée. La représentation va continuer. Vous allez voir maintenant les prouesses d'un singe qui mériterait d'être appelé homme, tant il a de ressources dans son sac. Il doit descendre de quelques fils d'Adam égarés dans les forêts du Congo. Ces balivernes n'intéressèrent personne, et tout le monde sortit. La troupe, craignant des embarras, crut bon de fuir sous d'autres cieux. Elle décolla. Le jeune acrobate d'alors, celui qui, tout à l'heure, alerte et vigoureux, enjamba le fossé pour aller chasser les intrus des champs de culture, c'est le vieillard d'aujourd'hui. Le voici qui revient. En lui montrant de l'admiration pour sa souplesse et sa vigueur, vous prendrez un verre à sa santé, ça lui fera plaisir. Et à la vôtre, madame. Et nous prîmes congé de l'aimable et intéressante jeune femme et du vaillant vieillard de l'hospitalière maison. »